Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à chacun et nous vous accueillons sur Bible Espoir et nous allons ouvrir notre Bible pour écouter un message audio qui traite un sujet particulier que nous connaissons tous, c'est la trahison ou les trahisons. Alors, de quoi parle-t-on lorsque la Bible nous entretient de cette circonstance, de ces circonstances malheureuses que nous trouvons à travers les pages de la Bible, et nous donner en effet eh bien, toutes les leçons, et puis également les moyens de pouvoir réagir favorablement, positivement, aux vexations, aux humiliations, à toutes ces eh bien, circonstances qui nous font du mal. La trahison est quelque chose de terrible. Alors on va tout simplement eh bien, donner un peu d'abord le sens de la chose. Trahir, de quoi parle-t-on ? Ça vient du latin tradere, qui veut dire transmettre ou tout simplement livrer. On trouve naturellement eh bien, cette explication dans l'histoire de l'Évangile avec Judas qui livra Jésus, donc qui a trahi Jésus. Alors on va parler d'abord de leur nature, des trahisons, la nature de la trahison. Et elle peut être familiale, elle peut être conjugale, amicale et sociale, et c'est véritablement eh bien, là un soufflet, une gifle que l'on reçoit. Et naturellement, c'est, eh bien, cela fait appel pour celui qui trahit de se montrer parfois infidèle, que se montrer souvent infidèle, et en usant de la perfidie, de ce qui est eh bien, mauvais. La raison des trahisons, eh bien, c'est souvent l'argent. C'est parfois les intérêts et les avantages recherchés. C'est la parole donnée, le reniement, les promesses non tenues, l'alliance et le serment que l'on brise, les engagements que l'on piétine. Alors naturellement, tout cela eh bien, peut avoir comme racine eh bien, les passions, la haine, et qui souvent se termine pour celui qui est trahi eh bien, dans l'incompréhension. Il ne comprend pas, après avoir eh bien, été aimé, après avoir été choisi, après avoir connu eh bien, l'amitié, eh bien, se retrouve tout simplement dans ce rejet. Les synonymes de trahison pourraient être la dissimulation, la fausseté, l'hypocrisie, le mensonge, la tricherie. Alors il y a naturellement eh bien, des faux amis, des faux frères, il peut y avoir également le parjure et la félonie. J'aimerais justement introduire ce message dans notre réflexion qui va suivre à travers un verset biblique, eh bien, dans tout simplement eh bien, là, un texte que l'évangéliste Matthieu eh bien, nous laisse quand Jésus dira à ceux qui l'entourent, et ça fait écho jusqu'à nous naturellement, que votre parole soit oui, oui, que votre nom soit non, non, et ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors il faut bien comprendre que celui qui a cette propension à se désengager, à trahir, hein, à faire ce genre de mal, eh bien, c'est quelque chose qu'il ne peut pas se couvrir en disant « c'est Dieu qui m'a fait de le dire, c'est Dieu qui m'a montré ceci et cela ». Il est bien dit, et Jésus le dit, mais tout ce qu'on y ajoute, après avoir donné tout simplement l'affirmation eh bien, de ce « oui », eh bien, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. J'aimerais justement eh bien, maintenant articuler notre réflexion dans le psaume 55, le psaume 55, et nous avons 3-4 versets qui nous sont présentés et qui illustrent la trahison d'un ami. Qu'un ennemi, qu'un adversaire, eh bien, s'emploie à véritablement nous tromper, Ça, c'est une chose, et on pourrait peut-être dire de bonne guerre, je préciserai quand même que c'est toujours une mauvaise guerre. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand c'est un ami qui véritablement est bien là et le traite, ça fait beaucoup, beaucoup plus de mal. Alors, je vous propose le psaume 55 et à partir du verset 13. Et voilà ce que dit le psalmiste, alors est-ce David, je ne sais pas, mais toujours est-il que celui qui écrit cela en a fait l'expérience. « Ce n'est pas un ennemi, écrit-il, qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. Mais c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité et nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » Entendez derrière tout cela qu'il y avait non seulement un caractère humain, amical, mais qu'il y avait aussi un partage de la foi. Nous allions à la maison de Dieu. Et c'est dans ce contexte aggravant que nous allons découvrir ce que peut comporter la trahison de quelqu'un qu'on a aimé, de quelqu'un qu'on n'aime plus, de quelqu'un dont on souhaite le mal. Alors là, nous allons naturellement ouvrir une page de notre Bible, et il s'agit du roi David. Il s'agit de ce grand homme de Dieu qui s'appelle David. Donc, on va commencer par les protagonistes de l'affaire. Donc, il y a David qui est le roi d'Israël. Il y a un homme qui apparaît aux côtés de David. Il s'appelle, alors c'est un nom qui est un petit peu compliqué, il s'appelle Achitophel. C'est un homme de renom, c'est un homme qui est un ami du roi, c'est un homme qui a une grande science et qui a beaucoup d'expérience. Alors David, Achitophel, conseiller donc du roi David, et puis il y a au milieu naturellement Absalom, qui n'est autre que le fils séditieux, et j'appuie bien sur ce qualificatif, le fils séditieux, et tout cela sur un fond de révolution de palais. Alors, disons tout de suite en ce qui concerne Salomon, c'est qu'il veut être roi à la place de son père, et le plus vite possible sera le mieux pour lui. Donc, David, Achitophel et Absalom. La présentation pourrait être celle-ci. Achitophel, et je le rappelle, est l'ami et le conseiller privilégié du roi David, qui a toute la confiance d'Achitophel. Et c'est ainsi que nous trouvons dans 2 Samuel chapitre 16 et verset 23, où il nous est dit la renommée en ce qui concerne de ce conseiller du roi. Il nous est dit que les conseils donnés par Achitophel avaient autant d'autorité en ce temps-là que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Alors imaginez-vous la position de cet homme, le rayonnement de cet homme, le poids de ses conseils, de sa prudence, le poids de son autorité dans ce qu'il pouvait être auprès du monarque. Mais c'est un ami qui est devenu traître et déloyal. Alors c'est là justement où commence notre affaire. C'est que si l'on veut véritablement bien comprendre les choses, c'est qu'il y a eu un changement dans la nature même, dans la réflexion, dans la conscience, dans l'esprit de cet Achitophel, donc déloyal. Achitophel est un homme de réputation, nous l'avons dit, dont le conseil est regardé comme infaillible. Mais malheureusement, et ça consiste tout simplement à un cœur double. On pourrait dire un hypocrite. Quand il était devant le roi, il cachait certainement son vrai visage, et également, il ne donnait pas le vrai langage qu'il devait tenir. Donc, Achitophel, porte un nom, parce qu'on peut donner tout simplement la signification de son nom, ça veut dire « frère de la folie », alors qu'il paraissait devant le roi, devant tous les serviteurs du palais royal, devant le peuple d'Israël, il paraissait comme un homme d'une grande sagesse. Et son nom veut dire tout simplement, dans le découlement, la frère de la folie. Nous l'avons par exemple dans 2 Samuel chapitre 15, il nous est dit que la conjuration d'Achitophel devint puissante contre David. Et face à la conjuration, David cria à Dieu, parce qu'il a été certainement le premier étonné de voir que son meilleur ami était devenu son pire ennemi. Et nous voyons que, par exemple, un peu plus loin, dans le chapitre 17, verset 23, il nous est dit qu'Achitophel alla à sa maison, et à ce moment-là, étant vu, étant dévoilé, eh bien, il s'étrangla. Parce qu'il a été dévoilé, parce qu'il a été vu. Parce que, justement, David cria à Dieu, « Ô Éternel, réduis à néant les conseils du traître Achitophel. » David ne l'appelle plus son ami, il l'appelle le traître, tout simplement. Hein, c'est un site pour, naturellement, eh bien, pour illustrer le sujet que nous allons là développer maintenant. Absalom, dont nous avons parlé comme troisième personnage, il est fils du roi et il va faire une démarche auprès d'Achitophel pour manigancer quelque chose pour déstabiliser, pour trahir son propre père, de trahir son père et prendre le pouvoir. Alors, la trame de l'histoire est résumée dans cette douloureuse complainte du psaume 41. À travers une phrase, nous aurons l'occasion d'ici quelques instants de relire ce psaume, mais là je voudrais isoler un verset qui caractérise cette révolution de palais, ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est David qui écrira ceci. « Mon meilleur ami lui-même, celui en qui j'avais confiance, avec qui je partageais mon pain, il était à ma table, s'est tourné contre moi. » Ça, c'est véritablement un cri de chagrin, de peine, et ça, c'est quelque chose dont peut-être certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous ont vu ou ont fait l'expérience de savoir que finalement, l'ami qui était le plus proche de nous n'était pas véritablement notre ami. Un ami est fidèle, un ami reste aux soins de nos besoins, de nos intérêts, et jamais un ami, parce que dans ami il y a amour, il y a véritablement fidélité, il y a intégrité. Et je crois que quand David s'est aperçu que là, Achitophel l'avait trahi, il écrit naturellement cette parole, je le relis, mon meilleur ami lui-même. J'avais confiance en lui. Il partageait mon pain à ma table et il s'est tourné contre moi. Et d'autant plus la peine de David a été grande, c'est qu'il va s'apercevoir que c'est son propre fils qui a manigancé ce stratagème. Et ça, c'est véritablement quelque chose d'épouvantable. Alors, donc, nous avons dit que tout cela est résumé dans le psaume 41. Et voici où un rappel du contexte. Parce que ça va tomber à un moment difficile de la vie de David. David a déjà un certain âge. Il est un roi qui est aimé par son peuple. Et dans cette considération, dans ce contexte, David tombe gravement malade. Alors, il ne nous est pas dit la nature de sa maladie, il ne nous est pas dit depuis quand il est malade, mais qui dit malade perd ses forces. Il perd peut-être sa raison dans un certain sens, parce qu'il est préoccupé par lui-même, par ses douleurs, et il n'est peut-être pas en capacité finalement de faire face à une épreuve telle qu'une trahison et à haut niveau. Alors David est malade et s'ajoute à sa souffrance un événement dramatique que je rappelle parce que j'en ai déjà parlé, c'est la révolte de son fils. Ça c'est terrible. Être trahi par des amis extérieurs c'est une chose, même si ce sont des très proches. Mais ami, trahi par son mari, sa femme, par ses propres enfants, c'est ceux auxquels il a donné la vie, ses enfants, c'est quelque chose d'épouvantable. La révolte donc de son fils est ce qu'il vient de découvrir, et il va s'apercevoir qu'il y a eu là toute une machination dans le palais. Le comble, c'est que son meilleur ami, qui est aussi, qui veut dire « ami de paix »,« ami de ma paix », le trahit honteusement. Maintenant, je voudrais mettre un parallèle, un pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que c'est intéressant et tout le monde connaît l'histoire naturellement. En parallèle, nous avons ce passage de l'Évangile de Jean au chapitre 13 et au verset 18. Ce sont les paroles mêmes de Jésus. Jésus, on pourrait dire que David était un prototype ou une préfiguration de Jésus. Alors on voit que eh bien, les choses sont semblables. Dans cette parole donc, du chapitre 13 de Jean, il y a Judas. Et dans le verset que je cite maintenant, Jésus dira « Celui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi. » Alors, Judas, qui avait fait lui aussi la même conspiration pour aller se laisser acheter par les religieux de son temps, par les sacrificateurs, il a reçu naturellement une somme d'argent, hein, des pièces d'argent, et nous voyons que quand Judas s'est aperçu que, en effet, l'histoire était éventée, que Jésus savait maintenant qui était, mais je crois qu'il l'a toujours su, qu'il était véritablement trahi par son disciple, Judas jeta l'argent, il se retira et alla se pendre. Nous avons exactement la même chose en ce qui concerne Achitophel, nous en reparlerons d'ici quelques instants. Alors voilà donc la situation qui nous est présentée. Et j'aimerais tout simplement, et bien là, et brièvement, et bien revoir un petit peu le contexte le texte. Nous voyons que si nous lisons, et c'est dans une version moderne, une version tout simplement réformée, nous pourrions dire, il est dit ceci au verset 1 à 4, « Heureux l'homme qui prête attention aux faibles, le jour où tout va mal pour lui, le Seigneur le tire du danger. » Ça, c'est une affirmation que nous donne la Bible. Et si quelquefois, eh bien, ou si quelqu'un peut-être passe par une trahison, par un rejet, eh bien qu'il sache que Dieu n'oublie pas ceux qui sont mal pris, les faibles, et que Dieu, tout simplement, le tire du danger. Un peu plus loin, il est dit que le Seigneur le garde en vie. Voilà, il y a des gens qui ont pour projet de nous voir disparaître. Alors, disparaître en perdant peut-être notre autorité, en perdant notre position, ou tout simplement, hein, en perdant la vie, hein, tout simplement. Mais le Seigneur le garde en vie, nous devons nous en souvenir, parce que tant que notre vie n'est pas finie, eh bien, elle appartient à Dieu et il nous fera vivre le temps qui sera nécessaire selon sa divine volonté. Et le rendre heureux sur la terre, et ça c'est quelque chose qui est véritablement très désagréable aux traîtres, hein, de voir qu'il voulait le mal pour quelqu'un et que, d'une manière providentielle, nous pourrions dire, eh bien, c'est il va recouvrer le bonheur sur la terre sans le laisser tomber, sans l'abandonner, parce que Dieu n'abandonne jamais personne, entre les griffes de ses ennemis. Alors, le mot griffe, c'est de la sauvagerie. Hein, c'est l'animal sauvage et qui va véritablement eh bien, se livrer à la curée, nous pourrions dire, pour qu'il ne reste rien de l'ennemi. En effet, que ce traître voulait infliger à celui qu'il poursuit. Un peu plus loin, au verset 4, il est dit que le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance en l'entourant des soins pendant sa maladie. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il y avait des circonstances aggravantes, des circonstances compliquées, parce que David avait un fils qu'il trahissait, il avait un ami qui le lâchait, et en plus, il était malade. Il ne nous est pas donné, naturellement, encore je le dis, eh bien, les raisons de sa maladie. Un peu plus loin, nous voyons que dans les versets suivants, eh bien là, il y a des paroles qui sont intéressantes. C'est David qui parle « Quant à moi, je m'adresse au Seigneur, fais-moi la grâce de me guérir. C'est vrai, je suis coupable devant toi, mes ennemis disent méchamment de moi. » Alors, j'ai une traduction quand même assez osée. La traduction serait celle-ci « Quand crèvera-t-il » hein, dans les versions un petit peu plus amélioré ou plutôt un petit peu plus soft, hein, eh bien, il est dit, mais quand mourra-t-il? Quand disparaîtra-t-il? Quand quittera-t-il la terre? Mais là, c'est assez osé. Quand crèvera-t-il? Qu'on n'entende plus parler de lui. Si l'un d'eux vient me voir, dira David, c'est pour me calomnier. Il ne vient pas pour m'encourager et me bénir, mais il vient pour me calomnier. Il fait provision de mensonges. Ce que je peux lui dire, il va tout simplement le dénaturer pour dire aux autres, eh bien, finalement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui en politique, ce qu'on appelle les fake news. L'un dit d'une manière, et puis tout est contredit, tout est déformé, tout est souillé. Il fait provision de mensonges, et sitôt dehors de ma maison, il va les colporter pour me porter préjudice. Ceux qui ne m'aiment pas se rassemblent pour chuchoter à mon sujet et méditer mon malheur. Et ils diront, ses ennemis diront, c'est une vilaine affaire qu'il a là. Il s'est mis au lit et il ne s'en relèvera pas. Alors voilà les pronostics qui sont naturellement livrés. Une amère et surprenante expérience que David est en train de faire quand l'amitié devient adversion, c'est-à-dire qu'elle passe à la couleur de la haine, eh bien les armes utilisées, c'est la fourberie et la rivalité. L'adversaire attend même la mort de celui qu'on rejette et en lui souhaitant un prompt rétablissement. D'un côté, dans son cœur, le fourbe va dire bien, quand vas-tu mourir, on ne veut plus de toi, disparais parce que nous avons des choses à faire, nous avons des choses à réaliser, toi tu nous gênes. Et en lui disant une parole contraire, en disant mais on te souhaite que tu retrouves la santé, on serait content de te voir finalement, et bien là, donc c'est un complot, une conspiration et toutes sortes de fausses nouvelles, c'est de la simulation. Il y a un proverbe qui dit ceci, c'est que les sirènes ont leurs chants les plus doux quand elles attirent sur les écueils. Alors on connaît naturellement, c'est légendaire tout cela, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, qui est le corps même de notre méditation, je reprends donc ce verset, « Mon meilleur ami, dit David, lui-même, celui en qui j'avais confiance, en qui je pouvais m'appuyer, qui avait véritablement, eh bien là, la capacité de tout entendre de ma part, avec qui je partageais mon pain, s'est tourné contre toi. » Ah oui, mettre quelqu'un à sa table, c'est quand même un honneur, c'est quand même un privilège, c'est une reconnaissance, eh bien là, de dignité en quelque sorte. Et dans ce verset, eh bien nous avons finalement que David, eh bien, est touché par le chagrin de la perte de son ami, et nous voyons dans la suite que cette perte, ce chagrin, cette peine est absolument compensée par la confiance en Dieu, celui qui est toujours fidèle et juste. Et dans le texte, « Mais toi, Seigneur, fais-moi la grâce de me relever, et je prendrai ma revanche sur eux. » Alors la revanche, pour nous, dans le monde évangélique, ce n'est pas de rendre œil pour œil et dent pour dent, mais c'est d'offrir le mensonge, le pardon devant le mensonge et l'hypocrisie, et de pouvoir permettre à cet homme qui a perdu la tête, qui a déraillé, qui véritablement est dans le fossé, et qui s'est rendu méchant, qui s'est rendu outrageux, qui s'est rendu dans finalement ce qu'on ne peut pas considérer comme le bien, eh bien c'est de pouvoir prier. Voici, dira-t-il, eh bien fais-moi la grâce de me relever. Voici comment je saurai que tu es pour moi mon Dieu, c'est que mon ennemi cesse de chanter victoire à mon sujet, et moi, tu me maintiendras dans l'innocence et me garderas toujours en ta présence. C'est un petit peu le remake du psaume 23, en quelque sorte. On peut peut-être représenter les choses. Donc, ce que nous avons besoin de savoir, c'est que le chagrin de la perte de son ami, eh bien, c'est que Dieu sera toujours du côté de celui qui est juste, fidèle, qui est droit. Que Dieu est le seul capable de justifier les siens qui sont calomniés. Que l'intégrité du croyant sera toujours récompensée. Alors, ne nous lassons pas de faire le bien, même si quelquefois, eh bien là, la tempête souffle fort, si quelquefois nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, non pas seulement par la maladie ou autre blessure d'une façon ou d'une autre, mais à travers finalement eh bien, ce torpillage pour neutraliser notre vie morale, notre vie psychologique et nous mettre par terre. Et le seul ami qui demeure et qui vaille, c'est Dieu. Les hommes sont ce qu'ils sont. Les hommes peuvent changer d'attitude, ils peuvent, étant amis, devenir nos ennemis, et quelquefois, nous avons vu aussi le sens contraire, c'est que des ennemis sont devenus, eh bien là, des amis. L'injuste moisson de ce qu'il a semé, Achitophel, est confondu par la révélation d'un autre ami de David, un autre conseiller, parce qu'il n'y avait pas qu'Achitophel, David n'avait pas qu'un seul conseiller, mais il y en avait un autre qui s'appelait Utchaï. Et Utchaï, c'est un personnage qui est le contraire d'Achitophel. Un homme de droiture, un homme au cœur droit. intègre, nous pourrions dire. Et là, il va y avoir finalement un combat entre ces deux conseillers de David. L'un va trahir, l'autre va, par la grâce de Dieu, être le fidèle pour accompagner David dans son relèvement. Et nous voyons qu'il va y avoir une révélation, donc, qui va confondre Achitophel, et cet homme, Utchaï, est indéfectible. Et c'est ce qui nous est dit dans le chapitre 17, et au verset 23, il dira « Achito, je l'ai déjà lu, quand il a été découvert Achitophel, Achitophel alla à sa maison, et il s'étrangla, ainsi il mourut, et on l'enterra. » Et nous avons en écho cette parole, donc, que nous pouvons peut-être relire, où il est donné cette dimension, tout simplement, où là, il y a une conclusion formidable, c'est que parce que nous sommes justes et fidèles, en tous les cas, nous faisons tous nos efforts parce que nous ne le sommes pas réellement, tant que nous serons dans un corps, nous serons quelquefois aussi injustes et infidèles, mais lorsque nous sommes justes et fidèles en amitié, nous perdrons peut-être nos amis, ça peut arriver en fonction de nos positionnements, et il ne faut jamais perdre de vue qu'il vaut mieux un lion féroce devant soi qu'un chien traite derrière soi. Alors, comment dire peut-être les choses? Il y a naturellement cette parole que nous avons dans le psaume 7 et verset 16. Il est dit ceci, « Voici le méchant prépare le mal. Il enfante le néant, il creuse une faute, il tombe dans et son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. » Ça, c'est une expérience que nous avons certainement faite à un moment ou à un autre. On y passe tous à un moment donné. Alors, dans plus ou moins de gravité, il y a des amis qui disparaissent. Ils ont été nos amis, ils ne le sont plus. Et puis voilà, nos voies se séparent. Et puis les choses se passent avec le temps. Les blessures sont guéries. Mais quelquefois, nous avons pu connaître des gens qui nous étaient très chers, qui étaient très proches de nous. On pourrait dire, nous, dans le monde de la dimension de la foi, ils étaient comme des frères selon la chair. Et à un moment ou à un autre, on n'a pas compris, ou on a peut-être compris plus tard, mais qu'ils nous ont complètement tourné le dos en nous faisant du mal. Et à ce moment-là, on s'en souvient, pour prier pour eux, naturellement, parce qu'ils ont perdu, finalement, le chemin. Peut-être ont-ils en même temps abandonné Dieu, c'est possible. Peut-être, là, ils ont mis, sous le boisseau, toutes les bonnes choses que nous avions vécues, tous les bons souvenirs, toutes les belles histoires que nous avons partagées, dans les joies ou comme dans les chagrins. Et puis, ils se sont retournés. Et ça, c'est quelque chose qui fait considérablement mal. Alors, nous avons cette parole pour terminer, si l'on peut faire ainsi. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de Judas, le disciple de Jésus, et Achitophel. Et ils ont eu le même sort, en quelque sorte. Parce que Jésus dira cette parole, « Celui qui mange avec moi le pain », comme nous le disons avec David dans le psaume 41, « Donc, celui qui mange avec moi le pain et a levé le talon contre moi, à ce moment-là, Judas jeta l'argent sans et se retira, et alla se pendre. » C'est ce que nous avons lu, et je le relis deux fois, parce que la nature de l'homme est toujours la même, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, aujourd'hui comme hier, c'est toujours le même processus. Et je voudrais dire ces choses, parce que je sais que parmi les auditeurs, il y a sur le plan, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à la fois conjugal, sur le plan familial, sur le plan amical, dans le domaine social, véritablement des situations qui nous ont été infligées, où nous avons perdu nos amis, où véritablement, de bons qu'ils étaient, où les bons moments que nous avons passés, ils sont devenus méchants. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être nous pouvons le deviner, la Bible entr'ouvre des portes de compréhension, parce qu'à un moment donné, quand Judas a trahi Jésus, il nous est dit que Satan entra dans Judas. Alors je pense que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui amène finalement ces situations de trahison. C'est une perte. On pourrait dire que c'est un rétrogradage chez les chrétiens quand c'est comme cela. Et que là, ils perdent pied et qu'au lieu de se laisser conduire par l'Esprit qui les inspire pour le bien, pour la vérité, pour la lumière, pour le bonheur des autres, pour le soin des autres, eh bien c'est comme s'il y avait quelque chose qui casse à l'intérieur, et de bon qu'ils étaient et qu'ils entretenaient cette bonté, eh bien ils vont devenir méchants et mauvais. Alors, nous l'avons là, naturellement, dans la personne d'Architophel, et je voudrais terminer tout simplement pour encourager. Eh bien, ce cri que nous trouvons, ce cri de ce psalmiste, de ce poète, de ce croyant de l'Ancien Testament, puisque c'est l'Ancien Testament, il dira ceci: d'où viennent ces blessures? Oui, c'est important ça. D'où viennent ces blessures? Et tu répondras à ce moment-là: c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Et c'est vrai que c'est pas forcément les gens de l'extérieur. C'est pas forcément les gens dans notre vie sociale, que ce soit nos supérieurs hiérarchiques dans notre profession, mais c'est quelquefois des gens qui sont très proches. Ce peut être nos enfants, ce peut être des amis d'une grande proximité. Et il le dit bien, le psalmisme, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Alors, laissez-moi tout simplement encourager ceux et celles qui traversent, qui ont traversé peut-être par le passé et qui n'ont jamais été guéris de tout cela, ceux qui traversent aujourd'hui des tempêtes, des vents contraires, qui sont là, profondément altérés, qui sont même peut-être par terre, qui sont désespérés, qui sont sans espoir, parce que leur souffrance est trop grande et immense, sachez, comme nous l'avons dit, c'est que Dieu est le Dieu qui est capable de nous guérir de nos blessures intérieures. Et ce n'est pas la peine de nous livrer à nous morfondre nous-mêmes ou à nous plaindre. La solution, elle est là. Et nous voyons que David, après avoir compris que Dieu ne l'a pas abandonné à travers cette révélation de ce prophète ou de cet homme qui s'appelait Tchaï, Dieu permettra qu'il y a des circonstances, qu'il peut y avoir des événements, qu'il peut y avoir des hommes mandatés par Dieu pour venir vers nous et nous guérir de la trahison, nous guérir et nous donner d'autres perspectives, parce que vous savez, quand on est confronté avec un traître qui nous a fait tellement de mal, alors on ne pense qu'à ça, nos jours, nos nuits, nos pensées, nos cœurs, notre réactivité morale, notre conscience est complètement altérée et nous ne pouvons pas nous en sortir. Et je dirais qu'il y a une double peine. Il y a la conscience d'avoir été trahi, d'avoir perdu un ami, et il y a la conscience maintenant, de tomber dans la culpabilité ou de tomber dans la vengeance. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Alors prenez courage, n'ayez pas peur. Moi, j'avais à cœur, finalement, de parler de ce sujet de trahison. Qu'est-ce que la trahison? Qu'est-ce que l'on peut faire devant la trahison? Qu'est-ce que l'on fait devant le traître? Quelle attitude devons-nous avoir? C'est une attitude, tout simplement, comme il nous est dit dans le Sermon sur la montagne: faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maudissent, etc., etc. Alors là, c'est tout un processus, c'est toute une école. Mais une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur, sera toujours notre délivrance. Et je crois que, pour ceux qui en ont fait l'expérience, après une tragique trahison, le Seigneur est capable de nous redonner peut-être ses amis qui nous ont tourné le dos et qui reviennent et qui véritablement ont pris conscience de toute la méchanceté qu'ils ont démontrée en ce qui nous concerne. Et puis d'un autre côté, ce qui est extraordinaire, c'est que, à défaut du retour de ses amis qui ne reviendront jamais peut-être, il va nous en donner encore de meilleurs. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous visite, et prenez courage, priez le Seigneur, parce qu'il n'est pas contre vous, il est pour vous, il est avec vous. Merci de votre écoute, et à bientôt sur notre site Bible Espoir. Merci.